Bonjour et bienvenue à ce 8e congrès international des recherches féministes dans la francophonie. 22 ans séparent cette 8e édition de la première qui était à l'initiative d'Huguette Dagenais qui est dans la salle. Bravo Huguette. Comme tu vois, on a tenu bon. Les femmes sont bien placées pour savoir et pour dire que les connaissances académiques ne produisent pas toutes les connaissances et tous les savoirs. Comme dominées, elles savent que la praxis génère des connaissances. Et comme dominées dans le domaine scientifique, elles expérimentent depuis longtemps que les savoirs qu'elles produisent sont invisibilisés ou minorés et qu'elles doivent lutter pour les faire prendre en compte, non pas en termes de gratification ou de récompense, mais tout simplement en termes de connaissances. Nos productions intellectuelles, universitaires ou pas, perturbent les savoirs établis et nous devons souvent commencer par déconstruire ces savoirs établis et poser comme des universaux, que ce soit dans les sciences humaines et sociales ou dans tous les autres domaines scientifiques. Nous devons souvent, tout simplement, corriger des erreurs scientifiques dues au point de vue particulier des dominants. Je me souviens d'un séminaire où Colette Guillaumin s'énervait, mais à la manière de Colette Guillaumin, c'est-à-dire très posément, s'énervait du temps que nous devions passer encore sur les écrits et la pensée des grands hommes, de nos grands penseurs, pour en faire ressortir les manquements et les erreurs. Un des enjeux majeurs des savoirs féministes aujourd'hui tient dans notre capacité à débattre de ces différents niveaux, et de ces différents facteurs et de ces différents niveaux, sans produire un éclatement définitif du projet du féminisme. Et en sachant conserver les instruments que nous nous sommes donnés, envers et contre tout, pour continuer à réfléchir ensemble aux causes plurielles de l'infériorisation et de l'oppression des femmes. Ainsi, le terme d'enjeu doit se penser au pluriel. Tandis que le point de mire à l'horizon du féminisme est commun, les enjeux historiques immédiats et à terme sont différents parce que nos places dans les multiples rapports de domination sont différentes.
Toujours à propos de Québec, le premier colloque, donc, en 96, une autre, j'avais passé une semaine extraordinaire. Je comprenais tout, on pouvait se contredire en se comprenant, on pouvait être pas d'accord, mais en se comprenant. Alors que pour des plus jeunes, ça a pu tenir de la révélation, voire du coup de foudre. J'étais un bébé féministe. C'est une citation, bien sûr, c'est pas moi qui parle. Donc j'étais un bébé féministe. C'était mon premier colloque féministe. J'ignorais totalement qu'il puisse y avoir autant de féministes. J'imaginais pas qu'il y avait des fédérations nationales militantes de solidarité. Ça m'a semblé fort. Je me suis sentie deux fois plus féministe, deux fois plus courageuse, et ça m'a boostée. Mais c'est aussi un lieu de socialisation professionnelle, en particulier pour les plus jeunes. La compétition est forte pour avoir des postes maintenant, et forcément il faut qu'elles présentent leurs travaux, dit une moins jeune, qui ne pense, vous le voyez, qu'au féminin, alors qu'il y a de plus en plus d'hommes, en particulier en sociologie. Nécessité donc de construire son CV pour toutes et pour tous, mais c'est aussi l'occasion de collaboration internationale personnelle ou entre groupes de recherche et associations. Cette socialisation professionnelle est-elle alors le signe d'une institutionnalisation du féminisme? Certaines peuvent considérer que c'est un risque, mais pour les aînés, il n'apparaît pas comme tel, suscitant au contraire un certain enthousiasme, celui de la transmission. Pour les étudiantes, formule celle-ci en riant, l'intérêt c'est en partie de rencontrer en personne leur bibliothèque, et pour les aînés en question, l'occasion de rencontrer leur lectrice. La transmission est-elle alors acquise? Oui, mais à la condition de bien garder le souci de la formation. Je cite, un grand colloque comme ça, où on prend les débutantes, chercheuses aguerries, et on met tout le monde ensemble, c'est vraiment formateur. Si ça se trouve, il n'y a personne dans leur labo qui les a guidées correctement sur ces questions de genre. Les titres des rencontres indiquent l'intention. Certains sont œcuméniques, volontairement vagues, afin que tout le monde puisse s'y inscrire. C'est la recherche féministe tout entière qui est invitée à Québec comme à Dakar, les recherches féministes à partir de Toulouse, quitte à ce que les appels à communication soient davantage centrés sur les enjeux en cours. D'autres affichent dès le titre une problématique plus centrée.
Et à l'Université Laval, j'étais impliquée beaucoup dans le développement des études féministes. Et c'est à ce titre-là, je pense, que vous voulez me parler aujourd'hui, puisque j'ai organisé le colloque de 1996, qui a été le premier de la série des congrès, qui sont devenus des congrès internationaux d'études féministes, de recherche féministe en réalité. C'était en fait le colloque la recherche féministe dans la francophonie. La recherche ici est au singulier parce qu'on parle au singulier, comme on dit, la méthode, la recherche. Pourquoi un colloque? Ben, j'avais fait, moi, plusieurs colloques et congrès auparavant. D'ailleurs, le premier congrès que j'ai organisé, c'était en 1978. C'était un congrès en anglais complètement, sauf quelques poches de collègues francophones de l'Université Laval et du Québec. C'était un congrès américain, d'ailleurs, qui se tenait à Québec, et de deux associations qui s'étaient réunies pour faire un colloque, un congrès, en fait, à Québec, dans l'American Ethnological Societies puis la Northeastern Anthropological Association. Ça, j'étais jeune professeur en 78 lorsque ça s'est produit. Et ensuite, on a eu à Laval un gros congrès de l'ICREF, l'Institut canadien de recherche sur les femmes, CREA en anglais. Et ça s'est tenu à Laval. Là, c'était vraiment très gros. En 1995, j'avais organisé, en tant que titulaire de la chaire d'études, j'avais organisé un colloque à Chicoutimi, dans le cadre de l'ACFAS, qui s'appelait « L'apport de la recherche féministe à la société québécoise ». Et après ça, on a fait, avec toutes les communications qui ont été retravaillées, on a fait un livre qui s'est appelé « Science, conscience et action ». J'avais quand même une certaine expérience des colloques et des congrès, ce qui fait que quand j'ai proposé au comité directeur de la chaire d'études d'en organiser un francophone à partir de la chaire d'études, l'idée n'était pas en soi curieuse ou bizarre pour elle. Et j'ai eu le feu vert de le faire. Et en tant que titulaire, j'avais de l'aide aussi. J'avais une adjointe qui a un PhD, donc c'était une personne vraiment, une professionnelle senior. Et j'avais aussi une secrétaire, il y avait moi. Donc, on avait quand même une bonne équipe, je dirais solide, très bien travaillée de façon horizontale avec Micheline Beauregard et France Bolduc. Et on s'est lancé. On travaillait vraiment, quand je dis horizontal, c'est qu'on avait, pour les communications, on avait deux possibilités de présentation, c'est-à-dire de proposition. On demandait aux gens de nous proposer soit des communications libres, une personne avait envie de présenter ses recherches, ou alors de nous présenter un atelier, ce qu'on appelle un atelier ou une séance de travail. Et on avait fait un appel à un dépliant. Et ça, c'est le premier dépliant qu'on avait fait. Il n'y avait pas d'ordinateur pour faire ça. Là. Quand les gens nous envoyaient une proposition, c'était sur papier. Donc, il fallait les classer, les propositions libres et les ateliers. Alors, j'ai dit, on prend des couleurs. On a mis des chemises de couleurs, d'une couleur pour les communications, une autre couleur pour les ateliers. Et puis, on a fonctionné comme ça. Vous l'avez compris. Et pour nous, la francophonie, contrairement à la France, où il y a toute une histoire coloniale derrière, pour nous, la francophonie, c'est une question pratique. C'est quelqu'un qui s'exprime en français, donc qui est influencé par la langue, et on partage cette langue-là avec d'autres, avec des gens en Afrique, même en Amérique latine, aux Antilles, au Canada, même aux États-Unis, parce que plusieurs personnes des États-Unis sont venues au colloque, elles parlent français, où elles sont originaires de pays, par exemple, des Antilles, où elles parlaient français. Mais ça n'avait pas la connotation coloniale, je pense. Tandis que là, c'était l'occasion de se retrouver dans la même langue, sans avoir à faire de traduction simultanée, de faire quoi que ce soit, tout le monde pouvait échanger. C'est évident que nos situations étaient différentes les unes des autres, mais c'était l'idée de... C'est un plaisir aussi de pouvoir parler sa langue sur le plan scientifique. Moi, j'avais travaillé dans la Caraïbe francophone, j'ai fait mes études de maîtrise dans les plantations de canne à sucre. J'ai ensuite eu un projet en Guadeloupe. Donc, j'étais déjà dans l'international. Mais mes collègues aussi, les anthropologues en particulier, les sociologues, on avait des contacts. Ce qui fait que c'était comme naturel. Puis la revue Recherche féministe, qui avait déjà depuis 8 ans de publication, était une revue internationale. Donc, on recevait des textes de différents endroits. Puis le féminisme est international, de toute manière, donc ça allait de soi. Mais nous, on ne s'est jamais, à Laval, quand j'ai organisé le colloque, on n'a jamais pensé en termes de courant. On a pensé en termes de thématiques. Les thèmes que j'ai retrouvés dans les séances, c'était les thèmes qui étaient les préoccupations de l'heure, de 1996. Des années 90 et même un peu après. Ce qui fait que c'est ça qui nous préoccupait, nous, que les grandes questions de l'heure, ou celles qui étaient en train de se développer, comme les questions de techniques de reproduction qui n'étaient pas aussi avancées qu'aujourd'hui, mais il y avait déjà toute une pensée critique venue de France là-dessus. Donc, c'était en développement, cette pensée-là. Alors, si je reviens maintenant au thème, alors nous, on a eu une séance sur les autochtones et qui avait des présentations d'autochtones et de non-autochtones. On a eu 3 séances sur l'Afrique, dont une qui s'appelait vraiment la recherche féministe en Afrique, 2 séances sur les religions, la religion, et non pas les religions, donc le phénomène religieux, une séance sur la recherche lesbienne, qui était une grosse séance d'ailleurs. Il y avait 2 personnes, il y avait la responsable, l'animatrice, et puis 7 présentations. Et il y avait 7 séances qui concernaient le développement. Alors, il y avait le développement international, le développement régional, le développement urbain. Et il y avait 7 séances. Donc, ça vous dit tout de suite que ce thème-là, abordé différemment, était vraiment très important à l'époque. Vous aviez 2 séances sur l'éthique. En recherche féministe, c'est toujours une question qui était posée. 2 séances sur la reproduction. Alors, la santé de la reproduction et les techniques de reproduction qui étaient en train de se développer. On a eu une séance sur les féministes d'État et les autres, les féministes des autres milieux, parce que ça, c'est très québécois, cette possibilité-là. Et on a donc fait venir la présidente du Conseil du statut de la femme, une sous-ministre, des féministes, là, donc qui sont venus parler avec nous. Et nous, ça faisait partie des préoccupations même à l'époque. 2 séances sur le sexisme dans le langage, des grosses séances aussi. 2 séances sur la violence, 4 séances sur le travail, mais abordées différemment. 2 séances sur le droit et la justice. J'en oublie, là, il y en avait plus que ça. L'introduction, l'ouverture, c'était sur 3 générations de féministes. Il y avait donc Micheline Dumont, Chantal Théry et puis Carmen Gill. Donc, je trouve qu'on a eu un beau programme. Le mot féministe est moins utilisé aujourd'hui que peut-être à l'époque. Les féministes, aujourd'hui, c'est engagé. Faire de la recherche féministe, c'est faire de la recherche engagée, c'est prendre une position politique. Alors, aujourd'hui, on est beaucoup plus tourné vers l'identité, les sentiments d'identité. C'était pas du tout comme ça. Alors, quand on regarde le programme, c'était des questions sociales, vraiment sociales. Qu'on parle de violence, qu'on parle de l'État et des rapports avec l'État, de l'organisation urbaine, c'était toutes des questions sociales sur lesquelles on s'est penché. Même les littéraires étudiaient des féministes qui s'étaient préoccupés du social. Donc, c'était les préoccupations, je ne dis pas toutes les féministes, mais pour les féministes du Québec et toutes celles qui sont venues de la francophonie, pour ça, c'était des questions sociale, qui avait une dimension matérialiste, qui avait une dimension théorique aussi, mais c'était des questions sociales. C'était moins des questions de tourner vers les individus ou tourner vers l'identité. Aujourd'hui, l'identité, c'est vraiment le maître mot à peu près partout. Une bonne idée de ce qui se faisait dans la francophonie féministe. Mm-hmm. Toujours jouer sur qu'est-ce qui nous réunit et qu'est-ce qui nous rassemble. Insister là-dessus plutôt que ce qui nous divise. C'est certain que j'ai toujours cherché du fait du grimpe, du fait de la revue. Je me suis toujours dit que si j'investissais autant, il fallait que ça vaille le coup, que ça continue, quoi.
Cela aurait pu être un coup d'épée dans l'eau, mais pour celle qui va être l'organisatrice du colloque suivant, cette expérience est un tel bouleversement que, je cite, « quand quelqu'un a dit « il faut que ça puisse continuer, que quelqu'un puisse prendre la suite », je me suis lancée. »
Le congrès a été tenu à l'Université de Dakar. Il était important de le tenir là-bas parce que d'abord, il a permis de faire que le mot féminisme, qui continue à être un gros mot, soit expliqué. Et surtout, ça a permis de montrer que le féminisme pouvait être une manière transversale d'aborder des questions complexes. On a pu montrer qu'on pouvait être universitaire, alors philosophe, juriste, mathématicienne, et avoir des diplômes conséquents, pouvait être féministe et pouvait avoir cette approche. La francophonie nous réunit, où nous essayons de faire que les Africaines, mais également toutes les personnes dans la francophonie, ailleurs qu'en France et ailleurs qu'en Occident, jouent un rôle très important.
L'idée de francophonie, bon, d'une part, c'est que les débats, effectivement, en français, sont des débats qu'on peut mener avec beaucoup plus de force et de précision que ce qui se passe en anglais. Et d'autre part, la francophonie, et ça c'est quand même le point de départ lancé par les Québécoises, ça veut dire l'Afrique. Et donc ça veut dire que là, on a un international qui n'est pas que les pays du Nord, les pays dominants, etc. Donc la présence des Africaines, elle est essentielle.
Le troisième a lieu à Toulouse en 2002. L'idée de pérennité se dessine. C'était la troisième fois qu'on reconnaît alors le début d'une série. Quatrième, à Ottawa en 2005, le colloque devient congrès et c'est le terme repris pour tous les suivants. Pourquoi ce changement ? Le terme de congrès évoque en principe la régularité, la pérennité, tandis que colloque désigne des rencontres libres et ouvertes. Au CIRF, les deux sont maintenant combinés, puisque vous le savez, on y tient des colloques à l'intérieur du congrès.
J'ai aussi par ailleurs participé en 2015 à l'organisation du colloque précédent, soit le colloque de Montréal, perdu en Amérique du Nord dans l'océan anglophone. Ça nous permet de retrouver un réseau international où on parle le français. Ça nous permet de véhiculer les savoirs féministes en français, ce qu'on considère être vraiment un enjeu extrêmement essentiel à la survie du savoir féministe francophone.
Alors, mon nom est Francine Descarrilles, je suis professeure au département de sociologie de l'Université du Québec de Montréal et directrice scientifique du réseau québécois en études féministes. J'étais directrice scientifique du CIRF 2015 et membre de son comité d'organisation. J'étais à Québec au moment de la fondation et ça a été pour moi d'ailleurs un très très beau moment parce que c'était un moment de ralliement. C'était un moment de prise de contact avec plusieurs collègues. C'était un moment où, effectivement, on s'est rencontrés mutuellement, si vous voulez, parce que antérieurement à ce congrès-là, il y avait des échanges ponctuels, mais je dirais qu'un échange orchestré, un échange systématisé, c'était à peu près la première fois que ça avait lieu. Et pour le Québec, c'était un événement majeur, mais c'était aussi une façon pour nous de montrer que les études féministes, elles existaient comme telles au Québec. On formait déjà une communauté de chercheurs, d'étudiantes surtout à l'époque, mais d'étudiantes graduées. Et donc, l'arrivée de ce premier congrès à Québec est venue concrétiser ce que nous ressentions les unes les autres, c'est-à-dire qu'on avait une capacité de s'organiser collectivement, mais aussi on avait une capacité de visibiliser, de faire rayonner les études féministes. Et c'était un peu l'objet de ce premier contact. Mais je pense aussi que dans l'intention du Guide d'Agenais, c'était l'idée de « il est temps que nous créions des réseaux, il est temps que nous nous mettions en contact les unes avec les autres » et je dois avouer que pour moi, en tout cas, ça a été l'occasion de le faire. Alors,
comment vous avez procédé pour l'organisation de la 7e édition du CIRF?
Nous avions une ambition, c'était celle de bien refléter les études féministes du Québec. Et donc de représenter à l'intérieur de notre programmation, mais aussi à l'intérieur du régulement des activités, de la nomination du comité scientifique, etc. L'idée était de représenter le plus large éventail possible d'approches, mais aussi de types d'intervenantes. Alors, pour nous, dès le départ, il était certain que nous allions associer les étudiantes, les travailleuses du milieu, les praticiennes et les universitaires. Dans la première année, il a été décidé que l'IREF et l'ORECEF travailleraient main dans la main. Ils se partageraient les responsabilités, partageraient aussi les premiers coûts. Première fonction a été d'organiser regrouper un comité scientifique. Et avec une intention très, très réelle, représenter l'ensemble des universités du Québec, représenter, comme je l'ai dit, les trois ou quatre catégories d'intervenants parmi les chimistes, et également de tenir compte de la diversité sous différents aspects. Alors, ce qui nous a donné un comité de 20 personnes, et ce comité-là a été essentiellement sollicité pour deux choses. La première était d'organiser, de développer une problématique, la problématique que vous connaissez, là, penser, créer, agir, pour bien, bien refléter cette idée que penser les femmes, créer, mais tout aussi la dimension artistique, la dimension littéraire, et agir, penser toute la dimension de la co-construction des connaissances, mais aussi, pour nous, ce qui était important, c'était production de savoir, mais aussi stratégie de changement. Et introduit aussi comme dimension, ça a été d'offrir à des personnes qui nous avaient proposé des colloques, d'offrir de recevoir certaines des communications libres à l'intérieur de leur colloque, ce qui, encore une fois, pour moi, devenait très, très important, c'est-à-dire d'accorder aux personnes qui ont soumis des communications libres la possibilité de faire partie d'une dynamique. Mm-hmm. Parce qu'un congrès, ça n'a de sens que s'il se crée des échanges. Et j'ajouterais même que nos jours, avec tous les outils qu'on a, et tout le virtuel, je dirais que pour moi, un congrès, ce qui est fondamental dans le congrès, c'est d'être capable de prendre contact avec des personnes qui travaillent dans les mêmes thématiques que nous, avec des personnes qui sont d'un grand intérêt pour nous. Quelquefois, pour les plus jeunes aussi, c'est de rencontrer des personnes qu'elles ont lues, qu'elles ont admirées. Et l'inverse aussi, pour les professeurs, de se faire un peu stimuler par les étudiants qui arrivent avec des nouvelles idées aussi. Alors, pour nous, ça avait été très important, par exemple, d'accorder une partie assez grande aux activités culturelles pendant le congrès. On a d'ailleurs encore ici, à la cafétéria, une magnifique murale qui a été faite pendant le congrès, qui est presque le plus beau comme une murale dans notre université. La décision de ne pas favoriser une pensée plutôt qu'une autre, puisque dans le fond, effectivement, une des caractéristiques des études féministes, c'est d'avoir explodé et de se départager en multiples pensées théoriques et pensées stratégiques. On a eu le plaisir et le défi de planifier une programmation très extensive, ce qui est à la fois la beauté, mais aussi le problème. C'est-à-dire que si on a un reproche à faire à ce congrès, comme peut-être au suivant, c'est que il y avait tellement de présentations de qualité, tellement de présentations intéressantes, effectivement, le fait que nécessairement elles devaient se recouvrir les unes les autres amène quelques frustrations. On avait vraiment les colloques que certaines personnes ont même poursuivi sur 3 ou 4 jours. Fort intéressant, mais en même temps, ces personnes-là ne sont restées que dans leur colloque, dans une certaine mesure. Nous avions des ateliers table ronde qui ont permis beaucoup de discussions. Et nous avions aussi pas mal de séances qui concernaient, j'aimerais presque dire, des prestations ou des ateliers de travail. Et donc, on était vraiment ouvert à chacune de ces formules-là, ce qui est un casse-tête à gérer. C'est vrai que la base, le non négociable, c'était un congrès en études féministes. C'est vraiment la qualité de ce congrès-là qui se démarque de tous les autres, qui s'appelle « Penser le genre, être genre, et genre, sexe, genre, identité ». Celui-ci est carrément identifié comme étant études féministes, qui pour nous est le choix d'une perspective, d'une porte d'entrée pour regarder les situations. Mais pour nous, une des tâches très, très importantes a été d'essayer d'accumuler un certain financement pour pouvoir amener chez nous des personnes qui, sans notre aide, sans notre soutien financier, n'auraient pas pu venir. Alors, ça, c'était aussi une de nos ambitions, un non négociable, c'est-à-dire favoriser la venue des personnes venant du Sud. Déjà, le Québec s'était fait remarquer soit au Maroc, soit à Lausanne pour ça. C'était très, très important d'avoir une représentation étudiante très forte. Et plusieurs de mes collègues et moi-même, qu'on soit à Rabat ou qu'on soit ici, avions vraiment fait des efforts pour pouvoir amener nos étudiantes avec nous. La connaissance, ça se construit dans la convivialité, mais ça se construit aussi surtout dans la collégialité. Et nos étudiantes ici, à l'UQAM notamment, sont très sensibles à cet impératif, c'est-à-dire tenter de réduire autant se faire se peut les barrières hiérarchiques. Un fait aussi dont j'étais assez fière, c'est qu'on avait organisé une soirée où on avait rendu hommage aux anciennes organisatrices des congrès, les organisatrices qui nous avaient précédées. Et ça, j'ai bien aimé parce que c'était un petit moment sympathique et ça nous permettait de leur dire merci aussi à Nigel Dagenet ou Fatoussou d'avoir... C'est plus facile de faire le septième que le premier ou le deuxième. Une grande difficulté, on ne l'a pas résolue. Je pensais qu'on pourrait peut-être en discuter un peu plus en interne, mais ça n'a pas été le cas finalement. C'est comment assurer la pérennité de l'organisation. Parce que le problème majeur, que ce soit à Montréal, que ce soit à Paris ou antérieurement, le problème majeur, c'est qu'il y a, sauf dans la bonne volonté des échanges interpersonnels, il n'y a pas d'archives. Il n'y a pas de logo. Il n'y a pas de papeterie, il n'y a pas de système informatique. Et je regarde, par exemple, tout ce que ça nous demande, les efforts pour penser, par exemple, tout le système pour les inscriptions, les paiements, etc. Et quand je regarde les grandes organisations qui ont quelque chose qui se promène à travers le monde puis qui fonctionne pour tout le monde, puis que nous, chacune de nos universités, les responsables recommandent ce travail, ça ne fait aucun sens. Mais pour que ça soit possible, il faudrait qu'il y ait une forme de cotisation ou une forme d'association. Mais CIF 2015, pour moi, c'était pour donner une image, pour donner une signature, pour donner quelque chose qui... Dans le milieu féministe, si tu parles de CIF 2015 ou si tu parles de CIF 2018, on sait très bien de quoi on parle. Et donc, c'était un branding, dans une certaine mesure, dans une volonté de branding. Le premier congrès est celui-ci. Il y a quand même pratiquement quoi, 25 ans qui est en 1900, c'est 2000, non, juste 20 ans.
Premier, 16.
Il y a une vingtaine d'années. Ben, je veux dire, il y a de la maturité. Il y a vraiment de la maturité qui on voit aussi entre Québec et aujourd'hui. Je veux dire, il y a une discipline qui s'est construite. Il y a un champ d'analyse qui s'est développé. Il y a un champ d'analyse qui réussit de mieux en mieux à intégrer théorie et stratégie, théorie et militance. Les études féministes ont pris de l'assurance. Les études féministes n'étaient plus dans la justification, mais dans la revendication. N'étaient plus dans la marginalité, mais elles étaient dans une volonté d'être un forum central. Et ça, pour moi, c'était très, très important, avec la qualité, c'est la qualité des formations que les étudiants ont reçues au cours des années. Tout ça. Mais moi, je pense que si on fait du bon boulot comme ça, on va durer longtemps.
Un peu avant Montréal, comme on vient d'ailleurs d'essayer de mettre en place là pour prévoir le 9e, il y a eu des discussions pour quel pays, dans quelle ville et quelle équipe pourrait prendre en charge. Bon, moi, je n'avais pas pensé du tout et puis l'équipe de Montréal m'a sollicité. J'ai demandé en fait, avant d'accepter, j'ai demandé d'une part s'il n'y avait pas d'autres propositions parce que normalement, ce 8e, d'après nos règles qui ne sont pas écrites, mais nos souhaits, on aurait aimé qu'il soit ni en Europe ni en Amérique du Nord, mais dans des pays qu'on dit du Sud, qui sont d'ailleurs majoritairement au Sud, ces pays, parce que le principe, c'est un peu que ça tourne, que ça tourne entre les continents de la francophonie. Mais il n'y avait pas eu de proposition. Donc on s'en est bien assuré et du coup, effectivement, à l'Assemblée Générale, j'ai levé la main. J'ai levé la main et je me suis rapprochée du micro qui était là dans les allées pour dire, moi, je veux bien prendre. À vrai dire, quand je me suis retrouvée devant ce micro, je me suis dit, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Et après, je me suis beaucoup demandé, mais qu'est-ce que j'ai fait? C'est à la fois passionnant, très, très enthousiasmant parce qu'il y a beaucoup de choses, de gestes de solidarité, de mots aussi de solidarité. Et puis il y a des choses un peu administratives où les gens ne se rendent pas forcément compte quand ils nous écrivent.
Que te dire, ça fait 12 mois que je travaille avec Anne-Marie Devreux, Sandrine Marot et aussi avec les membres du comité scientifique. Pour préparer le congrès, voilà.
Et oui, c'est un gros travail qui s'est très bien passé parce que donc on était sous la direction d'Anne-Marie Devreux, quand même, qui a tout piloté avec l'aide aussi de Marie Mathieu. Et on était 30 qui faisions partie du comité scientifique. Et donc, il y avait une très bonne ambiance. On a eu beaucoup de travail. Hein. Ça fait presque, depuis le dernier CIRF qu'on travaille sur ce CIRF 2018, très régulièrement. Et on a eu beaucoup de travail. Mais on l'a toujours fait quand même dans la bonne humeur. On a eu pas mal de soutien, et notamment de mon université, hein, puisqu'on a eu accès aux locaux ici, ce qui était vraiment pour nous quelque chose de fantastique. Quoi.
D'autres bons moments aussi, mais parfois plus complexes, avec plus de discussions, c'est les choix qu'on a dû faire avec le comité scientifique. Ce comité scientifique, il est constitué, puisque c'est au fond Paris qui organisait après Montréal ou Dakar. Oui. Tu vois, c'est quand même un peu une ville qui prend en charge. Donc, ce comité scientifique est constitué de chercheuses qui appartiennent à une des institutions, laboratoires ou associations qui travaillent dans le champ des recherches féministes en Ile-de-France, disons, hein. En fait, essentiellement à Paris.
On a fermé les inscriptions, on était à 1450 et quelques, les inscriptions en ligne, et on a encore beaucoup d'inscriptions au quotidien sur place. Donc nous, on avait pensé au début qu'on n'aurait pas plus de 1400 personnes, et ça a pris un peu son envol. Donc là, on a fait réimprimer des programmes un peu à la dernière minute. En comptant à peu près 1700 personnes, voilà. Et à peu près 1100 intervenantes, donc c'est l'ensemble des personnes qui sont dans le programme. C'est une grosse bible, le programme, et je pense que c'est un bon outil pour la suite, pour chacun des participants et participantes.
On avait proposé que les propositions de contribution puissent être de différentes formes, dont des colloques. On a limité le temps des colloques à 2 jours maxi pour que les gens puissent au moins circuler un peu, des tables rondes, des ateliers, et puis aussi, et ça c'est le comité scientifique qui a mis l'accent là-dessus, j'espère qu'on en a à peu près réussi ça, faire en sorte que les autres modes d'expression, performance artistique, exposition, ne soit pas à part dans un bâtiment, mais se mêle un peu, y compris dans les salles où il y avait des colloques. Donc on a des performances artistiques, parfois dans un colloque, une exposition qu'on va visiter pendant le colloque, qui est dans un hall à côté, etc. On voulait que tout ce qui est expression autre que académique ou en tous les cas de communication classique, soit plus imbriqué. Ça, c'est un effort particulier. J'espère que ça... Je ne demande pas forcément que ça ait été vu, mais au contraire que ça n'ait pas été vu, comme, tiens, c'est original et tout, mais que ça soit... que l'intégration se soit faite assez naturellement, si j'ose dire. Naturellement, c'est pas génial, mais voilà.
Les opérations, je vois la
Puis après la plénière, l'ensemble des personnes se sont un petit peu dispatchées dans les salles. C'était un petit peu compliqué, mais finalement ça s'est bien passé. Maintenant ça fait quelques jours. Beaucoup de stress, beaucoup de surprises, et puis aussi beaucoup de belles énergies.
Voliamo libertà.
Et depuis lundi, c'est un enchaînement de moments hauts en couleur.
Un grand moment pour nous. On a eu plein de grands moments. Mais un grand moment, et ça, c'est peut-être... moi, ça restera vraiment dans ma mémoire. C'est quand on a fait un appel aux bénévoles. On a fait un appel en demandant que les bénévoles nous envoient une petite lettre de motivation. On appelle ça comme ça fait un peu ressources humaines. Et un CV, c'est-à-dire on voulait savoir qu'est-ce qu'elles avaient fait et quels étaient leurs centres d'intérêt. Ces courriers étaient vraiment, c'était formidable, quoi. Peut-être qu'il faudrait en lire, je ne sais pas, pour ce film. En tous les cas, en faire quelque chose, c'était vraiment un moment... Marie et moi, c'était un de nos meilleurs moments, vraiment, ça.
Chacun à leur manière, ils mettent vraiment la main à la pâte. Ils ont plein d'initiatives. C'est une grosse équipe, c'est plus de 45 personnes. Beaucoup assez jeunes, qui découvrent aussi le féminisme là depuis quelques jours, qui ont plein de petits clics et plein de petites prises de conscience sur leur quotidien.
Je suis bénévole au CIRF. Ce que ça implique d'être bénévole, c'est durant les 5 jours de congrès, il y en a 2 pour lesquels je m'investis dans diverses tâches. Ça peut être l'accueil des intervenantes ou des participantes. Ça peut être aussi d'assister les organisatrices pour la gestion du matériel ou pour filmer les conférences, pour orienter diverses questions. Donc, si je me suis inscrite en tant que bénévole, c'est pour contribuer à la bonne tenue de cet événement, parce que je m'intéresse de très près aux questions féministes et j'étais ravie de pouvoir contribuer à cette année au CIRF. Voilà.
Et j'ai découvert du coup le CIRF parce qu'il y avait des colloques spécifiques sur ce que j'étudiais. Et donc j'avais particulièrement envie de venir en découvrir davantage, parce que c'est intéressant.
On peut continuer longtemps comme ça. Et
toi, t'es pas... Même quand on est en train de travailler, si on s'occupe par exemple d'une captation, on va assister à tout le déroulement de la conférence, en apportant notre coup de pouce aussi. Je m'intéresse également au féminisme, évidemment, puisque je suis là, c'est... quelque chose d'assez récent pour moi, et pouvoir participer au CIRF, c'était un moyen de pouvoir s'impliquer de manière pratique un petit peu dans le féminisme, parce que c'est quand même la base, ne pas en rester à la théorie. Donc voilà, pour moi, c'est un premier pas dans la pratique.
Enfin, étant féministe, le fait de participer à un colloque comme celui-là me paraissait très important, au-delà de mes recherches personnelles, mais aussi pour mon épanouissement personnel sur ces questions. Ça me paraissait être un moment que j'avais pas envie de louper, quoi. Donc, plus que surreprésentation de femmes, puisqu'il y a 3 garçons, je crois, et tout le reste sont des filles.
Allô, moi c'est Johan, donc de Montréal. J'ai été hyper étonné qu'il n'y avait pas beaucoup d'hommes en tant que bénévoles. Je connais pas les dynamiques de la France, donc je sais pas pourquoi. Les milieux que je connais beaucoup au Québec sont les milieux des communautés intentionnelles, surtout dans la région de Montréal. Mais ça vient un peu de soi, dans les communautés de logement, que les bases du féminisme sont respectées.
Ce que je retiens quand même majoritairement, c'est la cohésion qu'il y a eu entre les bénévoles. C'est-à-dire qu'on sait toutes qu'être féministe, c'est un état d'esprit et c'est au quotidien que ça se passe, donc dans chacune des petites interactions de la vie quotidienne, et c'est pas toujours facile, voire toujours très difficile. Et là, de se retrouver donc, avec des bénévoles qui ont fait la même démarche que soi et qui sont là pour cette cause et pour toujours apprendre et pour toujours se remettre perpétuellement en question sur ces problématiques-là, ça a créé une bulle extrêmement dynamique et avec une énergie folle et qui, je pense, nous a toutes et tous fait du bien. C'était finalement assez thérapeutique de pouvoir discuter extrêmement librement, sans se censurer, avec justement ce partage d'expériences vécues qui résulte en général de, enfin, qui concernent généralement notamment les violences vécues, etc. Donc c'est vrai qu'à ce niveau-là, c'était extrêmement thérapeutique de, d'échanger, d'avoir cette bulle.
Pour situer rapidement ce 8e congrès, cette édition, dans la continuité des précédents, je voudrais dans un premier temps rappeler ce qu'ils veulent être. Des congrès féministes d'abord, mais pas le congrès du féminisme ou des féminismes, je reviendrai sur ce pluriel tout à l'heure. Plus modestement, mais déjà avec beaucoup d'ambition, ces congrès, celui-ci en particulier, sont des congrès des recherches féministes. Ils ne prétendent pas, nous ne prétendons pas avoir monté le congrès 2018 du ou des féminismes francophones, même si dans les très 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 nombreux courriers que nous avons reçus, nous avons pu nous apercevoir qu'il était attendu comme tel. Dès leur origine, nos congrès ont aussi été conçus comme le lieu où s'interpénètrent et s'enrichissent les uns les autres les points de vue académiques, militants, politiques. L'autre dimension du caractère interstatutaire des CIRF concerne la présence très importante, et depuis le début, des jeunes chercheuses, et parfois maintenant jeunes chercheurs, concernés par la production des connaissances sur les femmes ou les rapports sociaux de sexe, le genre et la sexualité. Dans la construction du programme de ce congrès, nous avons veillé à ce que les divers événements, colloques, tables rondes, ateliers, etc., incluent les différents statuts représentés. Plusieurs de ces événements sont d'ailleurs à l'initiative des jeunes chercheuses, docteurs ou doctorantes, et parfois étudiantes à la maîtrise ou en master. Et nous avons souhaité que ce congrès soit une occasion de rencontres spécifiques entre les étudiantes et étudiants de tous les pays représentés pendant cette semaine. Aussi, nous avons ajouté à un programme déjà assez chargé une rencontre réservée aux étudiantes. Cette rencontre aura lieu mercredi soir à partir de 17h à la maison de l'étudiant et de l'étudiante de l'Université Paris-Nanterre qui nous accueille. Cet événement est organisé avec le soutien de l'association Effigie, que vous connaissez sans doute, par la fonction de diffusion de l'information absolument capitale qu'elle assume en France et sans doute un peu plus largement, pour tout ce qui relève du domaine des études féministes.
Et puis c'est ça que j'aime bien dans ce congrès, c'est que c'est à la fois des universitaires et des personnes de milieu associatif, des personnes qui sont sur le terrain au quotidien et que ça permet d'établir des ponts. J'en ai vu quelques inscrits, c'est assez chouette. Des échanges se mettent en place assez improbables parce qu'il y a énormément de pays, il y a plus de 40 pays qui sont représentés.
Ensuite, il s'agit bien de congrès internationaux. Ainsi, vous êtes venus de 47 pays. Ou 44 États, puisqu'en vous inscrivant en ligne, vous avez parfois souhaité définir votre nationalité parce que vous considérez comme votre pays et non l'État-nation dans lequel il est inséré. Nous avons ainsi parmi nous un bébé, bienvenue. Nous avons ainsi parmi nous des Palestiniennes, Martiniquaises ou Réunionnaises, ce qui est pour moi et pour vous, une information qui illustre parfaitement la question du contexte colonial ou postcolonial dans lequel se situe ce congrès de 2018. Les congressistes venant de France ne représentent que 58%. 11% des inscrites viennent d'autres pays d'Europe, et pas forcément francophones d'ailleurs. Et ainsi, vous êtes environ un tiers à être venus des autres continents. Plus de 1400 personnes se sont inscrites avant le début du congrès, donc en ligne. Et c'est évidemment tout à fait réjouissant de voir que les savoirs féministes francophones concernent autant de chercheuses, militantes, étudiantes, au-delà même des frontières des pays francophones. Quand vous êtes venus du Brésil, d'Afrique du Sud, de Turquie, du Japon ou même de Finlande, si ce n'est pas au sens strict de la francophilie, du moins cela peut nous amener à penser que travailler avec la langue française sur des questions relatives au féminisme et au rapport entre les hommes et les femmes apporte quelque chose de différent, peut-être de plus, que de s'en tenir à la langue anglaise internationale. Nous aurons l'occasion, dans diverses activités organisées dans ce congrès, de reparler de la signification de l'usage du français dans la fabrication des savoirs féministes. Sur ce point, je voudrais juste conclure de façon provisoire, donc seulement sur ce point, que monter et participer à un tel congrès francophone représente déjà une prise de position dans le monde scientifique et dans le monde militant. En tout cas, ce congrès est certainement une des rares manifestations en langue française de telle ampleur.
L'être humain possède manifestement le don de faire des miracles. Ce don, nous l'appelons dans le langage courant « agir », qui signifie la capacité de déclencher de nouveaux processus, dit Hannah Arendt. Est-ce que les théories critiques féministes renforcent cette capacité? Oui. Notre congrès se réalise dans une période de grande fragilité, mais également à la charnière de mobilisation féministe différente de celle des années 1970, mais qui découle des multiples conséquences de cette époque et des ressources actuelles. Seront-elles suffisantes pour changer les choses? Oui. Nous sommes dans la phase de maturation, à mon avis. Aujourd'hui, j'observe que les luttes féministes multiplient plus que jamais leurs sources d'influence et leurs ressources. J'entends beaucoup la voix de Bell Hooks dans les réunions féministes, partout. Elle disait, si on le pratique comme il faut, le féminisme est en fait une baguette magique qui pourrait changer la vie de chacun. Oui, les mouvements féministes peuvent changer nos vies, mais cela ne peut arriver que si nous parvenons à construire encore et encore nos théories féministes en agissant avec les autres mouvements sociaux, dit Bell Hooks. Notre capacité collective de créer des miracles serait plus forte. Mais les analyses ne nous suffiront pas. Nous ne pouvons plus nous permettre d'agir sans pensée utopique. C'est de là que naissent les innovations, la création, ici et maintenant, car le monde est terrible et la liberté est belle. Merci.
J'en viens maintenant rapidement à l'intitulé défini par le comité scientifique de ce 8e congrès. Espace et enjeux des savoirs féministes, réalité, lutte, utopie. Ce thème très large a été conçu pour que puissent s'y inscrire des contributions d'origine et de conception très diverses, quelle que soit la thématique de vos travaux ou vos préoccupations. Nous aurions pu choisir une des quelques problématiques récurrentes de notre actualité, et nous pensions d'ailleurs que la question de l'intersectionnalité des rapports de sexe, de race et de classe serait le thème qui surgirait de façon majoritaire. Nous aurions pu aussi centrer notre appel sur la question des rapports de domination liés aux sexualités et aux identités de genre, du fait de l'importance prise ces dernières années en France par les études dites de genre et de sexualité. Mais les réponses reçues à notre appel à contribution nous obligent à constater que nos priorités locales, nos propres réalités, luttes, utopies, ne sont pas forcément celles des autres pays. Une thématique ressort clairement de l'ensemble des réponses à notre appel, c'est celle de la violence, des violences subies par les femmes. Violences qui paraissent et thèmes qui paraissent d'autant plus constituer le régime ordinaire des rapports entre les sexes aujourd'hui, que les femmes parviennent de plus en plus à faire prendre en compte à travers leur lutte les inégalités et la subordination qu'elles subissent dans la famille, dans le travail, dans la sphère politique ou encore l'école, la santé ou la sexualité. Ces violences sont sans doute interprétables comme un retour de bâton au sens propre. Loin de nos débats entre courants théoriques, ce thème des violences vous est, à vous qui avez fait des propositions, vous est, semble-t-il, apparu comme une priorité. D'autres thèmes, évidemment, sont présents dans le programme. Un autre thème qu'on peut lier à ce triptyque réalité, lutte, utopie, c'est le thème de la production artistique et littéraire des femmes dans tous les pays de la francophonie et du rôle qui joue la résistance féministe à la domination.
Charlotte Fouché, qui est chargée de recherche au CNRS et membre du LEX, Laboratoire d'études de genre et de sexualité, que
tu connais bien,
et qui co-organise avec moi le groupe de recherche sur le matrimoine, l'histoire et l'historiographie des femmes dans les arts. Et donc, on a décidé de s'intéresser depuis quelque temps aux figures de médiatrices, c'est-à-dire celles qu'on oublie. Alors, on oublie déjà les femmes artistes, mais alors toutes celles qui produisent de la connaissance sur les arts, qui collectionnent, qui subventionnent, qui on les oublie encore plus, les pédagogues aussi. Les grands noms de pédagogues, vous savez, c'est toujours des noms d'hommes. Alors que les femmes, elles œuvrent. Et puis on dit, mais les femmes, elles transmettent jamais entre femmes, parce que de toute façon, elles sont jalouses, les plus jeunes. Et donc, on a eu envie de parler de tout ça.
Bonsoir tout le monde et bon après-midi. Donc, notre session de cet après-midi est consacrée à la religion et à la culture, surtout quand elle légitime la soumission des femmes. Je vais présenter d'abord Malika Benradi, qui est à ma droite. Malika est professeure émérite à la faculté de droit de Rabat. Elle est juriste privatiste. C'est une militante des droits humains, en particulier des droits humains des femmes. Elle a été présidente de la FARD, qui est l'association des femmes africaines pour la recherche et le développement. Et elle a organisé le 5e congrès international, le 5e congrès international de recherche féministe francophone. Et je vais dire aussi que Malika est une africaine, parce que souvent on entend nos sœurs du Maghreb dire nous sommes arabes ou nous appartenons au Moyen-Orient. Et j'ai toujours entendu Malika dire « je suis africaine ». Et ça fait longtemps que je la connais. Donc, je vais lui laisser la parole.
Bonsoir, chers amis, chers collègues, chers féministes. Je vais vous entretenir sur les termes d'un débat qui est ouvert au Maroc en ce moment sur l'égalité dans l'héritage. Donc, c'est toute la remise en cause du système successoral marocain. Et je vais bien sûr essayer de démontrer comment les féministes, qui malheureusement constituent une minorité, sont engagées, que les politiques sont hésitants, les acteurs politiques sont hésitants, et que les conservateurs, et je voudrais dire par là les islamistes, sont partagés. Et c'est la première fois où la question de la remise en cause du système successoral musulman va partager les conservateurs et particulièrement les islamistes.
Je voudrais cadrer un peu le débat sur justement la participation des femmes dans les processus politiques en période de conflit et de post-conflit. Donc le rôle et les engagements des femmes dans les processus. Parce qu'effectivement, les nombreuses recherches maintenant qui ont été menées sur ces thématiques et sur les femmes en situation de conflit et post-conflit ont montré justement que les processus de guerre et de fragilité des États donc peuvent offrir des opportunités pour une reconfiguration des dynamiques de genre.
On a quand même une petite présentation pour que vous compreniez bien dans quel contexte nos questions sont arrivées. Nous sommes un organisme communautaire, ça veut dire sans but lucratif, c'est comme une ONG, autonome et féministe. Les trois mots sont importants. On fait aussi beaucoup de sensibilisation à l'avortement. Les médecins n'entendent pas parler d'avortement pendant leur formation. Alors nous, on va rencontrer des résidents. Et on leur fait, c'est souvent Annabelle, on leur fait un petit cours, un atelier sur la réalité de l'avortement. Qui se fait avorter au Québec, par exemple? Quelle quantité de personnes? Au Québec, en gros, on a 25 000 avortements par année, grosso modo. Pour une population, vous l'avez vu tout à l'heure, de 8 millions d'habitants. C'était 27-28 000 il y a plusieurs années, quand on était encore juste 6 millions. Donc, la population augmente, le nombre d'avortements diminue. Sans la question.
En fait, ce qui m'a un peu interloqué, c'est que vous avez dit que les médecins n'ont pas de formation sur les avortements,
non.
C'est ça? Mais il y a une dépénalisation d'avortement.
Oui, c'est juste parce que ils se disent que dans la formation, que le jour où les médecins vont s'intéresser, ils vont aller se faire une formation pratico-pratique. Voilà. Dans nos cliniques, ce sont les généralistes D'accord. qui font ça. Okay. Par contre, les gynécologues qui pratiquent uniquement en centre hospitalier, eux, ils sont formés parce qu'ils se retrouvent à faire des avortements mm-hmm. d'urgence avec des trucs plus compliqués. Mais les médecins généralistes qui travaillent dans nos centres, tout ce qui est en dehors d'un hôpital est fait uniquement par des médecins généralistes. Parce que ce n'est pas nécessaire d'avoir un gynécologue et de le payer le gros prix, parce que les gynécologues sont payés beaucoup plus cher qu'un médecin généraliste, pour faire un geste simple. C'est un geste médical simple. Mm. Vous savez qu'un avortement par instrument, parce que bon, avec la pilule abortive, on pourra en reparler, ça vient juste de commencer au Québec, seulement depuis février dernier. Mais nous, c'est principalement par instrument. Ça prend 5 minutes. D'accord. Un avortement par instrument. Nous, on ne fait pas ça en milieu hospitalier, on fait ça en clinique. Une femme arrive chez nous, 3 heures après, elle est ressortie.
Et pour voir d'un pays à l'autre de la francophonie, où est-ce qu'on en est des difficultés à faire prendre en compte les recherches féministes dans les enseignements et dans la recherche? Et puis aussi avoir un échange sur ce qui a marché pour faire passer des enseignements féministes ou sur le genre. Là, on prend au sens féministe sur le genre, d'autant que le vocabulaire est différent d'un pays à l'autre. Et chacune repart avec une vision qui permet peut-être de relativiser un peu les problèmes qu'on a dans un pays, sans les nier, mais en disant, ouais, ailleurs, c'est difficile aussi. Mais qui permet aussi de glaner ici ou là des arguments, par exemple, pour faire passer un cours ou un morceau de programme dans un cours sur le genre ou sur les études féministes. Voilà.
Oui, c'est le Québec. Naturellement, au Québec, parler des difficultés d'institutionnalisation des études féministes ou de développement ou d'impact des études féministes, c'est relatif. C'est-à-dire que ça a été une bataille constante depuis les années 70, mais toute chose étant égale par ailleurs et par comparaison, je serais plutôt tentée de dire que les études féministes au Québec sont dans une situation très avantageuse. C'est-à-dire que nous avons des instituts et des groupes de recherche dans chacune des universités du Québec.
Je pense que c'est difficile de créer des études féministes. Je viens du Sénégal. J'étais à l'université Charanta Diop de Dakar. C'est difficile de parler d'études féministes quand le mot féministe reste encore un gros mot. Alors, on fait du genre, parce que le genre apaise tout le monde, mais la critique féministe, et là le problème qu'on a, c'est également un problème d'analyse et de théorisation des questions. Après, très rapidement, en quelques mots, je pense que l'université, en fait, ne s'est jamais occupée des études des femmes. L'université n'avait pas ce que c'était, elle n'avait pas envie de le faire. Et quand, la première organisation à s'occuper d'études de femmes, c'était l'Association des femmes africaines pour la recherche et le développement, qui était anti-féminisme. Alors on ne disait pas blanc à l'époque, hein. C'était anti-féminisme blanc. Nous ne sommes pas féministes parce que le féminisme est contrôlé par la pensée occidentale dominante. Donc quand on décolonise les sciences sociales, on dégorise également le féminisme.
Valérie Lodewoud, je suis belge, je travaille à l'Université des femmes à Bruxelles. Ça nous a posé aussi beaucoup la question de l'appropriation des savoirs, parce que, ben en fait, tous les savoirs militants sont en fait finalement complètement euphémisés sous cette appellation de genre. Hein, donc,
Jeunes que nous sommes, peut-être que notre audace a été d'imposer le terme féministe. Moi, je me souviens quand j'ai appelé une fois au vice-rectorat, hein, quand j'étais en train de travailler pour la revue Recherche féministe, et qu'une secrétaire m'a corrigée en me disant « Recherche féminine ». Ça, c'était dans les années 80. Mais même au départ, en les années 80, quand à l'UQAM et chez nous, quand on a décidé qu'on s'appelait groupe de recherche multidisciplinaire féministe, il n'y avait pas question qu'on change notre terme. De toute façon, on avait très peu de soutien. On était le collectif et on a tenu le coup. J'ai vraiment l'impression, et Francine me corrigera, que chez nous, il y a un regain dans les médias, qui est quand même intéressant, alors que les médias prennent le mot féminisme au sérieux, et que les jeunes, mais vraiment des jeunes de sciences sociales et d'autres, n'aient plus peur du mot. Et je ne dis pas qu'il n'y en a pas qui ont peur du mot, mais moi, ça m'a tellement frappé ça.
Je suis Annie Leschnet. J'ai d'une part organisé un colloque avec 6 sessions, mais j'ai aussi glané, sans beaucoup de plans préconçus, plein d'autres rencontres. Je trouve que c'est tellement extraordinaire d'entendre toutes ces choses différentes. C'est même frustrant, bien sûr, parce qu'il faut choisir. Hein. Et puis rencontrer des amis.
Et je me trouve extrêmement chanceuse de pouvoir être dans ce colloque. Je me sens un peu comme une abeille qui va, qui butine de colloque en colloque, d'intervention en intervention.
Ce que je peux dire de ce que je ressens, c'est qu'il y a toujours une ambiance conviviale. Les gens sont contents de se retrouver. Il y a des échanges qui sont très riches, des personnes qui se rencontrent, qui ne se seraient pas rencontrées sinon. Et donc, ça me semble toujours aussi ressourçant, motivant et au final vraiment intéressant, quoi.
Donc ça permet un petit peu que les gens puissent faire connaissance les uns avec les autres, se découvrir, mettre des visages sur des noms. Genre moi j'ai vu quelques personnes dont j'ai toujours lu les papiers, dont j'avais jamais vu le visage, et c'est super chouette de faire ces rencontres-là. Et puis voilà, que te dire de plus
En dehors du fait que c'était assez magique d'être là et de rencontrer des personnes, donc des auteurs et autrices que je lis régulièrement pour mes recherches et donc j'admire, beaucoup aussi par exemple de figures historiques des luttes féministes où on se sent toute petite et extrêmement reconnaissante, ce qui était vraiment des moments quand même assez intenses pour moi en tout cas.
Dans les congrès féministes, c'est vraiment en fait j'imagine que vraiment plusieurs personnes sentent la même chose et ont dit la même chose, mais c'est vraiment une occasion de se ressourcer. Puis bon, moi je viens de la science politique, qui est une discipline quand même qui reste encore en 2018 plutôt conservatrice, évidemment il y a des exceptions, et donc ici, si on peut dire, c'est une sorte un peu de safe space intellectuel et universitaire.
Voilà, je ressors avec beaucoup de choses, donc beaucoup de fatigue, mais plein de choses qu'il va falloir que je pose pour décanter, pour ensuite discuter, avec plein de nouveaux contacts. Voilà, et peut-être un réseau qui va se former pour mes prochaines recherches. Je travaille sur la prévention, donc c'est vraiment très chouette et je tenais à remercier tout le monde, quoi.
Et puis, une des grosses caractéristiques du congrès, c'est que c'est beaucoup de femmes. Beaucoup de femmes et il y a beaucoup de chaleur. Je pense que, je ne sais pas si on le ressentira sur les images, mais on a un appariteur qui nous a dit que finalement, c'est la première fois qu'il voyait un congrès où les gens se faisaient autant de bisous. Donc, je trouve ça assez rigolo comme commentaire, mais ça montre qu'effectivement, les gens, je pense, sont heureux de se retrouver et qu'il y a quand même un grand lien entre les féministes de tous les pays et de la francophonie qui n'est pas que des liens intellectuels, mais qui est aussi une solidarité militante, qui est une solidarité du quotidien, de soutien.
Posso andar só, eu sozinha ando bem, mas com você ando melhor. Companheira, me ajuda, eu não posso andar só, eu sozinha ando bem, mas com você ando melhor.
On vient de chanter, c'est un appel. Et c'est pour dire que la femme, elle n'est pas toute seule. Et elle a, il y a la copine qu'elle peut compter sur les autres femmes. Et quand on compte sur une autre femme, on est plus forte. Donc en gros, c'est ça. Merci.
Je ne sais pas qu'est-ce que je peux te dire plus.